must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Le 7 juillet 1947, un certain Alfred Hall lance un appel au leader soviétique Vyacheslav Molotov.
Je suis un des 15 maris anglais dont les femmes soviétiques n'ont pas la permission de quitter l'Union soviétique pour nous rejoindre en Angleterre. Et je suis ici aujourd'hui pour faire appel à M. Molotov. Je veux dire, avant toute chose, qu'il n'y avait aucune irresponsabilité ou de légèreté dans nos mariages. Pour moi, j'adore ma femme. Et je suis sûr qu'il n'y a pas dans le monde entier une autre femme pour moi. Et je dis ça après une séparation de 16 mois. Vous avez sans doute entendu beaucoup d'histoires sur les jeunes filles soviétiques, combattantes ou ouvrières, mais je peux vous assurer qu'elles font aussi des femmes et mères splendides. Environ 30 jeunes filles soviétiques ont épousé des Anglais, mais en ce moment, il n'y en a que 12 qui ont été autorisées à quitter la Russie.
La première chose que je trouve intéressante, c'est la date, donc juillet 1947, où à la fois on est très clairement rentré dans la guerre froide, en particulier du côté soviétique. On considère en général que à partir du printemps 1947, vous allez avoir les premières grandes campagnes, notamment anti-américaines, qui correspondent à des campagnes de vigilance interne et à un début de rupture de la grande alliance.
Justine Faure.
Et donc, comme on le voit dans ce document, ces campagnes de vigilance et donc de rupture de la Grande Alliance ont aussi des répercussions sur les mouvements de personnes, puisque ces femmes ne sont pas autorisées à sortir de l'Union soviétique. Et donc, en particulier, il est désormais interdit pour un soviétique de se marier avec un citoyen étranger. Mais en même temps, on est aussi à un moment où la rupture Est-Ouest n'est pas totale. Et finalement, ce document d'archives donne une image réelle, mais partielle de la situation Est-Ouest. Notamment parce que à ce moment-là, il existe toujours des circulations entre l'Occident et l'Union soviétique, des circulations pas forcément de personnes, mais pour avoir travaillé sur la revue du département, la revue de propagande du département d'État publiée en URSS à cette époque-là, en juillet 1947, vous avez toujours le département d'État qui diffuse en Union soviétique une revue de propagande et de promotion de l'American Way of Life. Le deuxième élément qui me fait dire que vous avez un document qui offre une vision partielle, c'est que toujours dans le domaine culturel, il existe encore des échanges entre les pays d'Europe centrale et orientale et les occidentaux. C'est-à-dire que en juillet 1947, vous avez toujours des étudiants, vous avez des journalistes occidentaux en Europe de l'Est, vous avez les instituts culturels qui fonctionnent de manière relativement libre, vous avez toujours des relations commerciales aussi qui existent entre l'Europe de l'Est et enfin la future ou celle qui est en train de devenir Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et donc, vous avez un rideau de fer qui, contrairement à ce que Churchill dit en mars 1946, n'est pas encore complètement tombé sur l'Europe. Et finalement, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans l'analyse de la guerre froide. Ce rideau de fer va tomber sur l'Europe de façon beaucoup plus progressive qu'on a pu le penser. Et donc notamment parce que vous avez pratiquement jusqu'à l'année 1949 toujours des liens culturels qui existent entre les démocraties populaires et les occidentaux. Et donc c'est finalement de façon assez progressive que le glacis soviétique va se constituer.
Finalement, ce rideau de fer n'aurait pu être qu'un rideau idéologique sans pour autant entraver à la liberté de voyager, de s'unir comme dans cette archive ou de se lire, de se réunir pour travailler ensemble.
Oui, tout à fait. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que le rideau de fer du côté du bloc soviétique, on le connaît, ou cette interdiction de franchir le rideau de fer, qui est considéré comme un acte de trahison. Mais le rideau de fer, peut-être on sait moins, fonctionne dans les deux sens. Et la propagande soviétique explique que les États-Unis aussi se sont entourés d'un rideau de fer en interdisant donc le commerce et en freinant les circulations de personnes. Parce qu'on est vraiment à ce moment-là dans une logique d'affrontement extrêmement forte, et que les circulations sont vues comme des dangers potentiels du côté des Occidentaux. Les circulations de personnes signifient pratiquement systématiquement que le soviétique, ou enfin le tchèque, le tchécoslovaque ou le polonais qui va venir est un espion.